Potentiel, le podcast qui t'aide et t'encourage à explorer et développer tous tes potentiels. Oser être soi avec toutes ses particularités, voilà en quoi consiste mon travail depuis des années. Moi, c'est Élodie, diplômée en psychologie, en psychanalyse, coach, médiatrice familiale, formatrice et autrice de nombreux livres sur les atypies. Moi-même concernée, multipassionnée et au multipotentiel, j'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas? C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Et bonjour à tous et à toutes, et comme chaque lundi vous en avez l'habitude, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et dans cet épisode, j'aimerais vous parler de mon dernier livre, du coup, qui est sorti aux éditions Trénadiel, au courrier du livre, en fait, c'est la même maison d'édition, que j'ai écrit à quatre mains avec Fabrice Michaud, qui est un des plus grands spécialistes internationaux, notamment du HPI, en fait, du haut potentiel intellectuel. Il a été vice-président de Mensa France, il est conférencier international, il fait beaucoup de formations en ligne. C'est vraiment un livre que j'ai adoré faire à 80 parce qu'on a deux styles totalement différents et du coup deux approches aussi différentes pour en fait proposer une information. Et si je vous parle aujourd'hui de ce livre, c'est pas juste pour en faire la promotion, bien sûr, même si vous avez bien entendu le lien pour l'acheter en barre d'infos, c'est qu'en fait ce livre, à mon sens, c'est un outil fondamental pour les atypiques. Et j'avais très envie de vous en parler. Le titre de ce livre, c'est décidé, je change ma vie. Et pourquoi c'est décidé, je change ma vie? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à l'intérieur, on vous donne 52 clés pour affirmer et prendre enfin votre place. 52 clés, bien sûr, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année, donc une par semaine. Alors, si vous voulez lire le livre d'une traite, vous pouvez, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de mettre en pratique les clés qu'on vous offre. En plus, on les a fait sous une forme, en fait, saisonnière, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Parce que selon les clés et les outils en fait donnés, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en hiver, souvent on se pose, on observe les choses. Au printemps, on commence à sortir de notre coquille après l'hiver justement, où on a bien hiberné. Et donc, on commence l'apprentissage. Il y a une sorte de promesse d'un monde meilleur en fait. En été, on va enraciner l'apprentissage qu'on a fait au printemps. Et donc, on va construire les choses et on va valider les choses. Et l'automne, bien sûr, on récolte, c'est la saison des récoltes, où on peut voir tout le labeur et la patience qu'on a eu tout au long de l'année et voir ce que ça donne. Alors là, effectivement, quand le podcast, cet épisode sortira, on sera au printemps, hein, vous pouvez de toute façon commencer comme vous voulez le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces clés-là, elles vont vous donner en fait des choses très pratico-pratiques pour comprendre les codes. Et alors là, ça va vous intéresser, et c'est tout le sujet justement de cet épisode du jour, les codes en fait pour vous adapter à un monde neurotypique. En fait, avec Fabrice, on s'est rendu compte très rapidement que la difficulté, la plus grande difficulté des personnes qu'on a accompagnées ou avec qui on discutait, c'était cette sensation d'être un peu à part, de pas toujours comprendre les codes. Alors c'est encore un peu plus prégnant lorsque effectivement on a des caractéristiques autistiques ou qu'on est autiste effectivement, mais ça l'est aussi pour les personnes THPI, donc avec un très haut potentiel intellectuel. Mais ça l'est tout autant, différemment, pour les personnes HPI, TDAH, hypersensibles, avec des troubles 10. Vu que les neuroatypies, c'est quand même un fonctionnement cognitif et émotionnel différent d'une norme donnée, en fait, et d'une norme malheureusement établie, forcément, c'est un autre rapport au monde. Quand on a, en fait, une manière de fonctionner cognitivement et émotionnellement qui est différent d'une majorité, on a forcément un rapport au monde qui est différent de cette majorité. C'est bon, vous me suivez? Donc, ça déclenche forcément des fois des complications relationnelles. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous ne parliez pas la même langue. Sauf que, et là je fais le parallèle avec mon expérience en tant qu'expat, enfin même plus en tant qu'expat, en tant que finalement émigré au Royaume-Uni, puisque c'est pas juste de l'expatriation, on a décidé d'y vivre, hein, même si après on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. L'anglais n'est pas ma langue naturelle. Et il y a parfois des choses que je ne comprends pas, parce qu'ils ont leur propre expression. Et puis en plus, je vis en fait au nord-nord de l'Écosse, dans les Highlands, où effectivement déjà de base en fait, ils ont leur propre langue qu'ils ont gardée, qui est le gaélique. Et en fait, le gaélique, c'est une langue celtique qui est encore bien utilisée, notamment dans les Highlands, voilà. Et pas que les personnes âgées, puisqu'ils peuvent l'apprendre. Donc, des fois, lorsqu'ils mixent tout ça, honnêtement, je comprends pas grand-chose. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile, malgré tout, pour moi, d'habiter dans un pays où c'est pas ma langue, en fait, originelle, parce que... maternelle, pardon, on dit langue maternelle. Parce que, lorsque je fais des erreurs... En fait, c'est pas grave, je peux être maladroite, c'est totalement bien perçu parce que ils voient bien mon accent de toute façon que je ne suis pas d'ici. J'ai l'impression que les maladresses que je pouvais faire en communication en France, elles étaient forcément mal interprétées parce qu'en fait, on s'attend et on attend de moi en fait, légitimement ou pas, je ne sais pas, mais que je ne fasse pas ce genre de maladresse. Et donc les maladresses sociales étaient forcément plus jugées. Donc, je trouve finalement plus facile, malgré la barrière de la langue, d'habiter dans un autre pays parce que justement, de base, on n'attend pas de toi que tu aies exactement les mêmes expressions, les mêmes références en fait. Là où, très vite en France, allez, je vous donne un petit exemple pour que ça soit plus concret. Si vous ne rigolez pas à la blague un petit peu glauque ou lourde autour de la machine à café alors que tout le monde rigole, en fait, on va vous étiqueter de personnes un peu bizarres et ça sera pas forcément bien vécu. Voire au contraire, on va vraiment vous juger en fait en disant « mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ou celui-là, il n'y a pas d'humour, mais ça va, déride-toi, c'était qu'une blague », ce genre de choses. Et vous allez finalement vous sentir plus étranger dans votre propre pays que moi finalement vivant à l'étranger. Vous voyez ? Et donc, cette histoire de code qu'on n'a pas, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement stressant, c'est déstabilisant et on peut perdre confiance en soi. D'autant que souvent, en fait, les codes, on ne les a pas depuis le début. C'est-à-dire que les atypies, vous savez, c'est de naissance. C'est pas d'un coup, on devient atypique. Enfin, en tout cas, quand je parle de neuroatypie. Hein. Donc, ça veut dire que de naissance, vous n'aviez pas les codes. Alors, si ça passe un certain temps, peut-être sur l'école primaire, petit à petit, ça passe beaucoup moins bien. Et souvent, on peut se sentir à l'écart et ça peut impacter négativement nos relations, nous faire perdre confiance en nous et nous faire croire que soit l'amitié, c'est pas fait pour nous, soit c'est trop compliqué, soit on a vécu malheureusement des cas de harcèlement, ça a été difficile, d'autant que lorsqu'on vit du harcèlement scolaire, c'est pas rare finalement de vivre du harcèlement professionnel par la suite, parce qu'on connaît souvent que ce statut et ce rôle de victime dans les relations, donc on a tendance à reproduire ça, ce schéma-là, si on le déconstruit pas et qu'on le travaille pas. Donc ça donne encore moins confiance dans la relation, dans les relations en tout cas interpersonnelles, mais aussi en soi-même. Et tout simplement parce qu'on n'a pas les codes. C'est quand même triste. Donc c'est vrai qu'on a pensé à faire ce livre pour notamment, pas que, mais notamment en fait, expliquer les codes. Et donc dans cet épisode de podcast, j'avais envie de vous donner des exemples concrets qui sont donc tirés du livre et qui, je pense, peuvent vous aider, être des clés vraiment hyper importantes. Et d'ailleurs, à la fin du livre, on a rajouté 5 clés d'urgence, en fait, qu'on peut utiliser à toute saison, comme on dit, où ça va être hyper important pour se sortir, en fait, d'une situation hyper malaisante. Vous savez, ce genre de situation où on a la sensation qu'on s'enterre tout seul, que si on parle plus, ça va pas aller, si on parle moins, ça va pas aller, et on sait pas finalement comment se comporter, et c'est horrible. On a envie d'être une petite souris qui rentre dans un trou, et au final, c'est juste hyper destructeur pour la confiance en soi. Et on ne sait pas du tout rattraper la situation. Bref, du coup, tout ça pour vous dire qu'on a pensé à vous. Je vais donc vous partager une clé de chaque saison du livre. Là, par exemple, pour la clé numéro 3, c'est « Bonne nouvelle, j'ai le droit de ne pas aimer tout le monde ». Donc, je ne vais pas vous lire exactement ce qu'il y a dans le livre, parce que si vous avez envie de le lire, vous le lirez. Mais en fait, ça commence toujours par une mise en situation où vous explique en fait un petit exemple. Voilà, on vous fait un petit débriefing, un petit zoom sur certaines difficultés et on fait un post-it de orientation solution pour vous donner toujours en fait du concret. Par exemple, donc, pour la clé numéro 3, « Bonne nouvelle, j'ai le droit de ne pas aimer tout le monde », eh bien, en fait, on s'attaque directement à cette envie qu'ont beaucoup d'hypersensibles de se dire « mais moi, j'aime tout le monde, je n'ai de problème avec personne ». Et surtout, ils ne veulent pas avoir des problèmes parce que, ils n'aiment pas le conflit. Et puis, finalement, assumer le fait de ne pas aimer tout le monde, c'est prendre le risque de ne pas être aimé par tout le monde. Et là, on touche à une difficulté qui revient régulièrement chez les personnes hypersensibles, c'est que surtout, ils ne veulent pas faire de vagues, quitte à faire tapisserie, à rester dans l'ombre, à en souffrir parfois. Mais ils préfèrent ça que de sentir qu'ils ne seront pas aimés par une personne et qu'ils ressentent finalement même du désamour ou quelque chose de désagréable, c'est-à-dire du dédain ou quelque chose vraiment où la personne nous déteste. Et c'est vrai que c'est jamais agréable de ressentir ça. Sauf que, d'une certaine manière, en faisant ça, vous n'allez pas aimer aussi les bonnes personnes. Ce que je veux vous dire, c'est que là, vous allez tomber en fait dans la suradaptation, dans le syndrome du caméléon. C'est-à-dire qu'à vouloir absolument aimer tout le monde et donc à se faire aimer par tout le monde, parce que l'un va avec l'autre, eh bien vous allez vous adapter, vous suradapter à beaucoup de personnes qui sont différentes et au final, vous allez vous perdre vous-même et vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. C'est ça qui est terrible. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ceci n'a rien à voir avec la gentillesse. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le respecte pas. Moi, il y a des fois où je n'aime pas une personne. Mais ça ne veut pas dire que je lui veux du mal. Ça ne veut pas dire que j'irai dire quoi que ce soit sur cette personne. Ça veut juste dire que, bah non, elle ne fait pas partie des gens que j'aime, tout simplement. Et en fait, je crois que ça nous donne aussi la possibilité d'être nous-mêmes. C'est prendre le risque, certes, de ne pas être accepté pour qui vous êtes, mais c'est aussi et surtout la possibilité d'être pleinement aimé et accepté pour qui vous êtes par les bonnes personnes. Et donc, ça vous permet d'être mieux entouré, d'être moins stressé, de déplaire. Parce que lorsqu'on est entouré par les bonnes personnes, on n'est pas stressé à un moment donné de déplaire. Ça amène donc plus du tout pour ceux et celles dont malheureusement sont victimes de dépendance affective. On n'est plus à quémander en fait de l'affection parce que les gens qui nous entourent se sentent en fait en grande sécurité affective. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'avais envie de partager parce que je pense que ça va parler à beaucoup d'hypersensibles. Donc gardez en tête qu'être aimé de tout le monde, c'est d'être aimé de personne en réalité. Que la suradaptation n'est pas de la gentillesse. C'est pas parce que en fait vous suradaptez que vous êtes gentil, absolument pas. Et d'ailleurs, elle peut même être perçue par les neurotypiques par une forme d'hypocrisie. Donc ça va se retourner contre vous. Et enfin, accepter de ne pas être aimé, c'est apprécier d'autant plus les caractéristiques des personnes que vous allez choisir et que vous allez vraiment aimer. Donc ça, c'est la première tips, je pense, hyper importante parce qu'elle crée beaucoup de confusion. Elle ne vous permet pas de bien vous entourer. Et malheureusement, en vous suradaptant, en pensant bien faire en vous suradaptant, eh bien, les neurotypiques vont interpréter ça comme quelqu'un d'hypocrite où on ne sait pas vraiment qui elle est et donc vous êtes beaucoup moins intéressante. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais vraiment, dans les faits, ça se remarque quasiment à 100%. Allez, je ne veux pas dire à 100%, mais quasiment. Hein. Les neurotypiques préfèrent les gros cons, les grosses connasses, excusez-moi la vulgarité, mais c'est ça, qui s'assument, ils préfèrent des gens comme ça qui s'assument, que plutôt quelqu'un de gentil mais qui paraît nier et qu'on ne sait pas trop qui il ou elle est, en fait. C'est fou à dire, mais c'est vraiment ça. Une deuxième clé que je vous partage donc du livre et donc dans une autre partie, là on était dans l'hiver, donc vous voyez, l'hiver c'est un peu voilà, de la réflexion sur soi, c'est donc une clé du printemps, où là on passe quand même un petit peu en action, et c'est la clé 18, c'est « J'ai compris que le monde est une grande pièce de théâtre, les gens se prennent pour leur rôle ». Et ça va faire référence à ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons comme dans un grand récif collectif, qui tient tout un chacun, dans un équilibre socialement acceptable. En fait, la psychosociologie explique ça très bien. Ce système, en fait, ça enferme des gens dans une sorte de normalité, et dans une sorte de complicité d'ailleurs. Ça permet une cohésion collective, et où chacun, en fait, est debout, et ça donne une illusion que tout va bien. Je vous donne un exemple, mais c'est vrai que je suis persuadée que vous, votre vision de l'amitié n'est pas la même que la plupart des gens. La plupart des gens, voilà, ils vont aller boire un verre de temps en temps, faire un cours de tennis ensemble, faire une session shopping, et puis ça y est, ils disent qu'ils sont amis. Alors même que vous, vous voyez l'un critiquer l'autre avec une autre personne. Bon, je pense que pour la plupart des atypiques, c'est pas ça l'amitié. Clairement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en souffrance, parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils aimeraient en fait créer et ce qui est possible de créer. Donc, il faut vraiment en fait vous rendre compte que c'est comme une pièce de théâtre. Utile. Elle est utile socialement. C'est comme ça qu'en fait ça tient. Hein. Parce que la majorité y souscrit à cette pièce de théâtre. elle tient lieu en fait d'une sorte d'identité collective. Alors là, c'est un peu de la psychanalyse, mais vous savez que bon, moi j'ai un amour pour la psychanalyse. Attention, pas la psychanalyse de Freud de l'ancien temps, mais celle qui est effectivement beaucoup plus modernisée, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Hein. La psychanalyse au départ, c'est la philosophie de l'esprit, et c'est ça que j'aime. Mais après, bon, à chacun effectivement de trouver avantage ou pas. Mais j'aime en fait cette réflexion autour du collectif en fait qu'il y a dans la psychanalyse. En fait, on se rend compte que l'identité collective, eh bien, elle tient l'identité individuelle, l'une impactant sur l'autre. Alors bien sûr, il y a toujours un peu, comme dans Matrix, hein, la trilogie, une frange minoritaire de personnes de la population qui n'y croit pas, qui ne peut pas y croire, et qui ressent que tout ça, en fait, c'est du fake, que c'est factice, et que ça nous est insupportable. Et c'est souvent d'ailleurs des atypiques. Et d'ailleurs, c'est plus fort que nous, on a souvent besoin de le dire, en fait. C'est insupportable parce que notre corps nous dit que là, on n'est pas aligné, que c'est du n'importe quoi. C'est extrêmement douloureux parfois, vraiment. Et c'est encore pire, je pense, dans le monde du travail, parce qu'on sent vraiment là... C'est presque viscéral, en fait. On sent bien que c'est pas authentique. Et d'ailleurs, beaucoup d'atypiques disent qu'ils ont besoin d'authenticité. Donc, pour ces personnes-là qui ressentent ça, et pour vous certainement qui écoutent ce podcast, ça va nécessiter de vous construire une propre identité individuelle. En fait, un peu comme du prêt-à-porter, ça va gratter, hein. C'est pas agréable. Mais en fait, il faut essayer de comprendre où est-ce que vous allez mettre votre curseur entre compromis et compromission. Votre corps va parler pour ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais pour ça, il faut vraiment quand même apprendre les codes. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez tenir un rôle dans cette pièce de théâtre. C'est évident. Et le rôle social est important. D'ailleurs, il y a une théorie autour du rôle social, c'est-à-dire que en fait, nous jouons différents rôles dans notre vie quotidienne en fonction du contexte social, des attentes de notre entourage. Par exemple, on peut avoir un rôle d'ami, de parent, de collègue, un rôle qui comprend des comportements et des responsabilités, de toute façon, selon où on est, et qui va faire lien avec finalement une sorte de construction sociale de la réalité. Et là aussi, c'est intéressant de voir qu'en fait, la réalité, ben, de quelle réalité on parle en fait ? Parce qu'on n'a pas tous et toutes la même réalité. Donc, en fait, là, ce qu'on vous dit dans le livre, notamment, c'est de devenir, alors, je résume un peu, mais c'est de devenir un bon étudiant en code, de comprendre, et peut-être d'avoir, en fait, cette posture d'anthropologue. Vous pouvez très bien adopter comme rôle dans cette pièce de théâtre l'anthropologue. L'anthropologue qui va dans une nouvelle culture, dans un nouveau pays, et qui va découvrir, finalement, eh bien, toutes les coutumes, aussi loufoques, eh bien, que ça puisse lui paraître, pour comprendre, en fait, cette nouvelle culture et ce nouveau pays. Il faut aussi comprendre que les gens ne vous veulent pas forcément du mal. C'est juste une programmation sociale de leur être. Ils ont besoin de se mettre dans un rôle. Ils sont totalement déconnectés de leur essence. C'est juste pas possible pour eux, en fait. Donc, vous allez peut-être leur demander quelque chose qu'ils ne sont pas en capacité de faire. Et là, c'est là où il y a justement une complication. C'est-à-dire que lorsque vous allez dire aux gens, mais en fait, je trouve que les gens ne sont pas authentiques, ils vont vous dire, ah oui, oui, totalement. Mais en fait, ils ne saisissent absolument pas ce que vous voulez dire par là. Ou sinon, ils vont vous trouver juste bizarre en disant « Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Mais vraiment, elle est relou, elle est pénible, elle fait que râler, cette personne, elle dit qu'on n'est pas authentique, mais c'est elle qui n'est pas authentique. » Enfin voilà, ça va juste générer ça, et il y aura une incompréhension. Puis, une troisième clé qui va en découler, et donc du coup, je vous ai fait une forme logique. Donc là, on est dans l'été, donc vraiment, là, on va mettre des choses plus en pratique et on va aller en profondeur. C'est la clé 28 du livre, c'est « J'arrête de me justifier, plus je parle et plus c'est pire ». Avez-vous remarqué ça ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que, en fait, en cherchant cette honnêteté, cette authenticité dans les relations, on a souvent besoin, nous les atypiques, de développer le cours de notre pensée. De surtout, finalement, être très honnête avec ce que l'on pense et de dérouler le fil rouge correctement, parce que c'est comme ça qu'on a la sensation d'être honnête avec l'autre. De lui montrer, en fait, aussi sans filtre ce que l'on pense et comment on le pense. Sauf que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est qu'en fait, pour le monde neurotypique et pour leur code à eux, plus vous développez, plus c'est que vous avez quelque chose à cacher. En fait, c'est le contraire de ce que vous avez envie de faire. C'est terriblement frustrant. C'est-à-dire que la majorité des gens pensent en général le contraire de vous. C'est-à-dire que, en général, ils pensent que vous êtes le problème, que vous êtes fautif et que plus finalement vous développez quelque chose et plus vous essayez de vous justifier sur quelque chose où vous serez potentiellement pas à l'aise. Alors que ce n'est pas du tout ce que vous essayez de faire. Vous essayez justement d'être le plus authentique, transparent possible avec ce que vous pensez et ce que vous souhaitez partager avec l'autre. Alors, je vais vous faire un petit zoom sur le biais ou l'illusion de la transparence. C'est la tendance qu'ont les individus à surestimer la connaissance que les autres ont de leur état mental. mais cela peut être aussi le fait de surestimer la compréhension qu'on pense avoir des autres. Ainsi, pour tenter de combler ces petits billets, certaines personnes vont encore plus vouloir s'expliquer, donnant encore plus l'illusion à l'autre qu'ils vous comprennent. Mais pensez que donner plus d'informations aux gens dans le but qu'ils soient plus compréhensifs et donc plus sympas avec vous, c'est pas du tout une bonne stratégie, bien au contraire en fait. C'est-à-dire que vous allez donner encore plus de bâtons pour vous faire battre. Et c'est terrible, parce qu'en fait, d'une certaine manière, je vous demande de faire l'inverse de ce qui est naturel. Alors, je vous le demande pas vraiment, je pense que je vous donne juste ce code-là pour que vous le compreniez. En fait, il faut vraiment garder à l'esprit que les personnes en général ne fonctionnent pas du tout comme vous. Elles ne se rendent pas visibles et encore moins lisibles. Elles trouvent aussi étrange et suspect que vous puissiez vous faire cela. C'est-à-dire en dire toujours plus, comme si vous cherchiez à cacher une vérité, en fait, c'est vraiment ça. Elles, les gens ne cherchent pas forcément à être transparents, d'être toujours authentiques, à donner des explications bienveillantes, à chercher le mot le plus juste, en fait, pour décrire une vérité, de ce qu'ils ressentent en tout cas, de ce qui colle le mieux, pour essayer, pas du tout du tout. En fait, beaucoup de personnes vont se servir des informations que vous allez donner pour les retourner contre vous. Et c'est super injuste, et c'est hyper douloureux. Donc, dans le livre, on décrit 5 étapes pour effectivement éviter ça. Mais là, ce que je vais vraiment vous dire, c'est surtout de rester synthétique. Surtout lorsque vous sentez que plus vous en dites, plus en fait vous perdez votre interlocuteur. Ça ne sert à rien. Que parfois, il vaut mieux se taire pour éviter d'être trop lisible. Et c'est terrible à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moins vous en donnez et plus les gens sont satisfaits d'une certaine manière. Regardez un petit peu comment ça se passe les discours politiques. Je trouve que il n'y a pas mieux, pour l'anthropologue justement que vous devez être, de comprendre en fait dans quel monde on vit. La personne qui en fait a raison en politique, c'est pas celui qui va développer le cours de sa pensée, absolument pas. C'est celui qui fait taire l'autre. Et avec, si c'est fait avec le moins de mots possible, eh ben il va paraître le plus intelligent. Ce qui est assez dingue quand même, quand on y pense. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que la transparence n'est pas du tout un cadre de sécurité, bien au contraire. Alors bien sûr, parfois, vous allez tomber sur des gens honnêtes et de bonne volonté, et dans ces cas-là, ça marche. Mais surtout, ne rentrez pas dans la grande justification si ce n'est pas le cas. Et enfin, je terminerai donc par une des dernières clés, et donc on est là sur la saison de l'automne, où effectivement on récolte les fruits. Et donc cette clé-là, elle vient d'une phrase qui est très connue de Fabrice Michaud, donc je le cite, c'est « ni folle ni conne », en fait, tout simplement parce que beaucoup de femmes atypiques, en général, doivent déconstruire cette idée-là parce qu'on leur fait comprendre tout au long de leur vie ou pendant en tout cas X années qu'elles étaient soit folles, soit connes, soit les deux d'ailleurs. Et donc il y a vraiment une clé essentielle là-dedans et ce qui est important c'est de comprendre que une fois que vous avez un petit peu l'expérience de la vie et que vous avez compris les codes, une fois que vous allez en fait décoder justement tout ça, les codes sociaux et comprendre la différence entre votre fonctionnement et le fonctionnement des autres, parce que pour rappel, comme je vous ai dit en début de cet épisode de podcast, vu qu'on a un système cognitif et émotionnels différents, nous voyons et percevons le monde différemment, inévitablement, eh bien nous ne parlons pas le même langage. Et que c'est à nous, effectivement, d'apprendre une nouvelle langue, de nous en servir quand il y a nécessité, mais aussi, par contre, de rester soi-même et de trouver comment rester soi-même. C'est ça qui est intéressant. Soit avec des personnes ressources, soit dans des lieux ressources. Malheureusement, parfois, ça va demander un long travail sur soi, parce que ça arrive souvent dès l'enfance, d'ailleurs. On a pu observer un décalage, comme je disais, entre le fonctionnement des autres enfants, à l'école ou avec la famille, et le sien. Et ça, ça va influencer notre vie, notre partie épigénétique, notre manière de nous voir. On va se dire, c'est pas possible, j'ai un problème. Et il y a souvent là deux grandes équipes chez les personnes atypiques. Soit elles sont plutôt positionnées dans le style « j'ai un problème, qu'est-ce qui va pas chez moi, les autres sont différents », ou bien les autres ont un problème, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Pourquoi ils sont si différents? Donc ça dépend des personnalités. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de garder ce côté ni folle ni conne, qui parle à beaucoup de femmes, parce que si c'est votre cas, gardez bien en tête que vous pouvez rester vous-même, en fait. Vous êtes totalement normal. C'est ok, en fait, de ne pas faire partie d'une majorité, et d'être donc dans une minorité. Mais par contre, vous ne devez pas partager votre monde intérieur, votre intimité, à tout le monde, et vous devez rester prudente en fait, sans tomber dans la paranoïa, mais c'est un petit peu lorsque on va dans une piscine, on saute pas d'un coup, on vérifie la température de l'eau, on y va progressivement, c'est exactement pareil. Et je sais que ça c'est douloureux parce que justement on a la sensation de manquer d'authenticité, de manquer d'honnêteté envers l'autre, parce que nous on parle avec notre cœur, on a envie de se connecter direct avec la personne, mais c'est en fait c'est aussi comprendre que l'autre n'est pas en capacité de comprendre ce langage-là. Et si à côté de cela, vous avez des problématiques, eh bien, peut-être aller consulter un professionnel adapté. N'hésitez pas justement à demander de l'aide. Je tiens à jour très régulièrement sur mon site ou sur ma story Instagram un annuaire de professionnels spécialisés dans les neuroatypies. Je fais le tri régulièrement selon les avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser, à me faire un retour si vous êtes allé voir tel ou tel professionnel, si c'était positif, négatif. Parce que bon, si on peut tous avoir des avis négatifs parce que bah, des fois ça ne matche pas et puis on reste des êtres humains, donc même en tant que professionnel, parfois ça peut ne pas fonctionner. Mais si effectivement j'ai beaucoup d'avis négatifs, en général, je supprime les personnes du répertoire. Donc ça, c'est important effectivement de faire des retours. Donc pour les personnes, n'hésitez pas, si vous avez besoin, d'aller voir des professionnels qui sont effectivement adaptés. Et puis, gardez bien en tête que vous avez le droit d'exister comme vous êtes, que vous avez le droit de vous aimer comme vous êtes, et que vous allez forcément trouver des gens qui vous aiment comme vous êtes. Voilà, je vais finir là-dessus. Si ce que je vous ai un petit peu raconté, alors c'est vraiment une petite bribe, hein, voilà, je pense que vous avez compris du livre, n'hésitez pas à commander le livre, il est disponible chez tous les libraires. Ce livre s'appelle « C'est décidé, je change ma vie, 52 clés pour s'affirmer et prendre enfin sa place », édité Le Courrier du Livre, voilà. Vous pouvez le commander sur Internet ou chez vos libraires indépendants. Je vous encourage aussi peut-être à l'offrir à des personnes peut-être qui seraient intéressées et d'en parler autour de vous ou tout simplement déjà de partager ce podcast qui peut parler, je pense, à de nombreux atypiques. Et sur ce, je vous souhaite, comme d'habitude, une très 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 belle semaine. Prenez soin de vous et à lundi prochain. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée !